RCF.
L'année 2017 marque trois anniversaires concernant le mouvement ATD Quart Monde. Les 100 ans de son fondateur, le père Joseph Wrzesinski pour commencer, les 60 ans de la fondation du mouvement et enfin les 30 ans de la journée mondiale du refus de la misère. Une aventure extraordinaire liée à un homme extraordinaire, le père Joseph Wrzesinski, donc, né le 12 février 1917 et mort en 1988. Axelle Brodier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne au CNRS. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la pauvreté et, pour faire simple, de la lutte contre la pauvreté, ce qui inclut toutes sortes d'actions, d'engagements, de mouvements, de décisions politiques aussi.
C'est-à-dire que l'idée, c'est d'appréhender la pauvreté sous toutes ses facettes, à la fois l'attitude des pouvoirs publics vis-à-vis de la pauvreté, mais aussi les associations de solidarité, anciennement associations caritatives. Donc voilà, les associations qui sont la partie privée de la lutte contre la pauvreté et qui coopèrent avec les pouvoirs publics qui les titillent, qui mettent en application aussi les lois. Et puis, tout ce qui est la pauvreté elle-même, parce que la pauvreté de 1914, la pauvreté de 1945 et la pauvreté aujourd'hui sont pas du tout les mêmes. Et donc, voir tout ça ensemble, c'est une alchimie qui reflète notre société, qui reflète l'attitude générale des gens, l'économie, le social, etc.
Comparer le père Joseph Wrzesinski à l'abbé Pierre, ça vous paraît une approche pertinente ?
Alors c'est une approche complètement pertinente pour plein de raisons. Alors ils ont des parcours assez différents parce que l'abbé Pierre est de famille bourgeoise et le père Joseph est de famille très pauvre. Mais ils ont créé leurs associations quasiment au même moment puisque on va le voir, l'ATD est en fait une émanation par scission d'Emmaüs, que les deux hommes se sont connus, qu'ils se sont énormément appréciés mais aussi énormément affrontés, que chacun traite une facette de la pauvreté à cette époque-là. L'abbé Pierre a plutôt créé des communautés pour les hommes isolés, alors que le père Joseph, tout de suite, s'est centré sur la pauvreté des familles. Les deux sont très centrés sur la dignité de la personne. L'abbé Pierre a une approche peut-être plus économique, la dignité par le travail, et le père Joseph, plus culturel, la pauvreté par le savoir, l'expression, la conscience de soi, etc. Donc oui, c'est complètement pertinent, et c'est les deux plus grandes figures du traitement de la pauvreté contemporaine au XXe siècle dans son ensemble.
Vous avez souligné les origines très modestes de Joseph Wrzesinski. Modeste, c'est peu dire, puisque c'est quelque chose qui aura très profondément marqué non seulement son enfance, mais ce qu'il était fondamentalement.
Oui, c'est-à-dire que de tous les grands fondateurs des associations de solidarité, c'est le seul qui ait vraiment expérimenté la misère dans sa chair. Alors son père était polonais, sa mère était espagnole. Ils arrivent en France au moment de la déclaration de la Première Guerre mondiale et donc tout de suite ils se retrouvent internés dans des camps, stigmatisés, etc. C'est un parcours de discrimination, d'exclusion. Son père était ingénieur mécanicien en Pologne. Il voulait devenir horloger en France. Il a jamais réussi. Il était violent à la maison. Et finalement, il va repartir en Pologne et il va laisser la femme et les enfants tout seul en France. Et donc, le père Joseph a eu une enfance de misère. Le terme de misère, c'est sans doute ATD Quart Monde qui lui a donné une vraie connotation scientifique. C'est une des spécificités aussi d'ATD Quart Monde, c'est d'avoir cherché à la comprendre, cette misère. Scientifiquement, de mettre des chiffres, de mettre du qualitatif, du quantitatif. La misère, c'est quand la dignité de l'homme, elle est bafouée, quand on devient un infra-humain. Quand on est pauvre, on pourrait dire que c'est juste économiquement parlant, vous avez du mal à boucler vos fins de mois, voire vous n'y arrivez pas. Mais vous pouvez continuer à avoir une vie digne, à vous sentir inséré dans la société. Ils ont aussi forgé des termes comme le sous-prolétariat, avec l'idée que le prolétariat, c'est une couche qui a été politiquement et petit à petit économiquement intégrée. Les sous-prolétaires, c'est une couche atomisée qui ignore même qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation. Donc tout l'objectif de ce mouvement va être de leur donner une identité, une existence en tant que couche sociale ou quasiment en tant que classe et de leur faire accéder à la dignité et à l'insertion économique, professionnelle, à la reconnaissance, etc. Donc c'est quelque chose de très très fort en termes de conception.
J'étais un enfant qui a connu ce que les pauvres peuvent connaître.
Le père Joseph Wrzesinski dans l'émission Radioscopie du 7 mai 1973.
De privations matérielles, bien sûr, mais plus que des privations matérielles, de privations d'échange, d'amitié, de compréhension, de rencontre.
Ce n'était pas tellement le manque d'avoir.
C'était le manque de savoir.
Si, l'argent a une grande place chez les pauvres. On ne parle que d'argent. On ne parle que d'argent, mais... On dit l'argent ne fait pas de bonheur, mais on sait très bien que si on n'a pas d'argent, on n'a pas de bonheur parce qu'on n'a pas l'autre. On rencontre jamais l'autre.
RCF, Véronique Alzieux.
Pour en revenir à l'enfance et à la jeunesse du père Wrzesinski, il aura passé une partie de cette jeunesse à Angers.
Oui, parce que en fait, donc la famille arrive à Paris en 1914 et le père a un passeport allemand. Du coup, il est identifié comme un ennemi potentiel et les ennemis y sont enfermés. On les interne au fort de Saumur et la famille va passer toute la guerre enfermée. Il y a un enfant qui va mourir en bas âge et le père Joseph va naître en 1917.
Dans l'internement. La famille est internée quand il naît.
Elle est internée.
Le père Joseph Wrzesinski raconte aussi à quel point il a été marqué par une communauté de sœurs chez qui, déjà tout petit, contre un peu de pain,
oui,
il était enfant de cœur.
En fait, la famille était tellement pauvre que ses sœurs du Bon Pasteur, grande communauté historique très connue, proposent à la famille en échange, effectivement, alors on ne sait pas trop, suivant les témoignages, c'est un repas de midi pour lui et sa famille, ou un morceau de pain le matin, ou peut-être les deux, ou peut-être ça dépend des sources, que le père Joseph vienne servir la messe. Il y a des témoignages qui disent à partir de 4 ans et demi, les historiens trouvent que c'est peu crédible, mais sans doute 5 ans, 6 ans. Donc depuis quand même tout petit, tous les matins, il se levait extrêmement tôt.
Aux aurores.
Il allait servir cette messe et il allait gagner un minimum de nourriture pour faire vivre ou survivre sa famille. Et il rentrait et là, sa journée d'enfant commençait. Et donc la religion, évidemment, elle est devenue tout de suite omniprésente par la figure de ses sœurs. Mais aussi, c'est se lever aux aurores et c'est aller gagner le pain de sa famille.
Il y a eu tellement de souffrance, tellement de peine. Papa n'écrivait plus, on ne savait plus, on n'avait plus d'argent. Et on pleurait, ma mère pleurait. Moi, j'allais bien voler à droite et de gauche des fleurs pour lui apporter, faire des petites délicatesses comme ça. Et puis, un beau jour, c'était un peu mieux, un petit peu de soleil est venu dans la maison. Et puis, on a regardé la cage du chardonneret. Il était mort. C'est ça la misère. Ne jamais pouvoir être sûr de garder ce qu'on aime.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des études ?
Non, pas vraiment. Enfin, il a fait le minimum et à 13 ans, il a été placé comme apprenti boulanger-pâtissier. Il se définit plutôt comme pâtissier. D'ailleurs, après, dans le camp de Noisy, il donnera des fois des cours de pâtisserie aux femmes. Il n'avait pas beaucoup de temps, donc il n'en a pas donné beaucoup.
Cette vocation sacerdotale, c'est une vocation qu'il faut mettre dans un contexte ou bien il y a vraiment pour lui quelque chose qui s'impose en termes de foi et d'expérience de Dieu?
D'après ce qu'on peut retracer, c'est oscillatoire. C'est-à-dire qu'il a été marqué par la religion, par les sœurs du Bon Pasteur. Et sa mère était très croyante et très pratiquante. Elle pratiquait dans sa paroisse. Elle avait inscrit ses enfants au patronage du jeudi, du dimanche, etc. Donc, ils étaient très insérés dans la sociabilité catholique de la paroisse. Il a fréquenté la religion. Elle a emprunt l'enfance du père Joseph. Après, il s'est distancé, visiblement. À un moment, il a été plutôt dans les jeunesses socialistes. Il y a passé quelques mois. Et puis, il est revenu au catholicisme par la JOC. Et là, il a redécouvert, mais autre chose, une autre facette du catholicisme, parce que la JOC...
Jeunesse ouvrière chrétienne.
Voilà, c'est les enquêtes en milieu ouvrier, voir, juger, agir, c'est l'apprentissage de l'enquête sociologique. Et c'est à partir de là qu'il décide véritablement de préparer des études pour entrer au petit séminaire. Et donc, il entrera à 17 ans au petit séminaire. Et donc, il fait plutôt partie de ce qu'on appelle les vocations tardives. Son parcours vers la prêtrise est perturbé par la Seconde Guerre mondiale. En fait, il doit être mobilisé au régiment. Donc, il fait ses classes en 37. Après, il doit être libéré. Arrive 39, il est remobilisé. Il est fait prisonnier par les Allemands. Il s'évade. Finalement, il re-rentre au séminaire, au grand séminaire en 1940. Il est assez attiré par le social. On le voit à la fin de la guerre, dans les années 44-45, s'occuper des enfants des quartiers pauvres, demander à faire un stage aux peintures Valentine, donc à rentrer dans le monde ouvrier déjà. Il travaille un mois dans des mines dans le Nord, donc on le voit vraiment se rapprocher du monde ouvrier. Donc il est ordonné prêtre en juin 46 à Soissons, et là commence son parcours de prêtre. Il faut quand même dire que sa devise sacerdotale, c'est « va au large, jette tes filets ». C'est aussi quelque chose d'assez missionnaire, un tropisme vers le monde ouvrier. Il fait 2 ans dans une paroisse ouvrière, donc à Ternier, de 46 à 48. Et là, il est attiré par la mission de France. Il demande à faire des expériences en mission. Il va être perturbé aussi par la maladie. Il va partir en Sana. Il revient, il fait plusieurs missions. Et il demande finalement son incorporation à la mission de France. Et c'est là où la mission de France ferme. Et donc du coup, il ne peut pas y aller.
Donc il reste prêtre diocésain.
Et donc du coup, retour à la prêtrise. Voilà, cette fois-ci, c'est à la paroisse de Duizel, donc c'est un peu plus rural. Et là, il va être un prêtre assez atypique, il se met en bleu de travail, il travaille au champ, etc. Donc c'est vraiment son tropisme très social.
Le père Joseph Wrzinski est donc ordonné prêtre en 46 dans le diocèse de Soissons. Axel Brodier, vous avez souligné déjà sa fibre sociale, on va dire très très marquée. Dans quelles circonstances arrive-t-il dans le camp de Noisy-le-Grand ?
Donc c'est un prêtre un petit peu atypique dans sa paroisse. L'évêché commence à recevoir un peu des plaintes à son sujet. Il ne sait plus trop quoi en faire. On est dans le contexte de 1954, l'appel de l'abbé Pierre, qui a un succès extraordinaire en France et au niveau international. Suite à cet appel, afflue des populations mal logées ou non logées, parce qu'on est en pleine crise du logement en France. Et donc arrivent des familles à Paris, que l'abbé Pierre essaye de loger tant bien que mal, dans des camps de tentes aux portes de Paris, portes d'Orléans, portes de Vanves, etc. Mais en juin 54, reste encore un certain nombre de familles non relogées parce que pour beaucoup, difficilement relogeables, trop cassées, trop abîmées. Et donc, à partir de juillet, l'abbé Pierre, qui a entre-temps acquis un terrain complètement insalubre à Noisy-le-Grand, décide de mettre ses familles sur le camp. Et donc, en juillet 54, arrivent les premières familles sur le terrain de Noisy-le-Grand, qui n'est pas viabilisé, qui est plein de boue, il n'y a pas d'électricité, il y a une seule borne fontaine.
Un vrai bidonville.
Ah bah au début, c'est rien du tout. Et puis petit à petit, une fois que vous avez mis 252 familles, parce que c'est ce qui se passe, ça devient un bidonville. Au début, c'est des tentes. À partir de l'hiver 54-55, ça devient des igloos en fibrociment. Donc on appelle ça des igloos parce que c'est des baraques semi-circulaires avec un toit de tôle ondulée. C'est des conditions absolument dramatiques. Mais comme dans tous les bidonvilles de France à cette époque-là, on le sait pas très bien, mais en 65 par exemple en France, donc 10 ans plus tard, il y a quand même 75 000 personnes qui vivent dans 255 bidonvilles en France.
Qui cherche un aumônier
parce que les responsables et les aumôniers ne restent pas. Donc l'évêque du père Joseph, qui ne sait pas trop quoi en faire dans sa petite campagne à Duizel, lui propose d'aller voir. Et donc le père Joseph arrive le 14 juillet 1956 et il reconnaît son enfance. Ces gens, ces femmes, ces enfants, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma mère. Et il a ce mot, il reconnaît son peuple. Ce terme de peuple, il est assez intéressant parce que c'est un terme qui est à la fois très français révolutionnaire, le peuple de la Révolution française.
Mais très biblique
c'est
aussi.
C'est un terme qui est très socialiste, le front populaire. Et c'est en même temps un terme complètement biblique. C'est le peuple de Dieu, c'est le peuple messianique, etc. Il dit, et je me suis promis ce jour-là, que si je restais, je lui ferais gravir les marches du Vatican, de l'Élysée, de l'ONU. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va au final réussir à le faire, parce que dans un bidonville en 56, c'était vraiment pas gagné. Et donc il prend quelques mois de réflexion, et en novembre 56, il décide de rester, et il s'installe dans le camp.
Puis un jour, l'évêque m'a dit, mais...
Tu sais, Joseph, voilà, je t'ai fait venir parce qu'il y a un camp à Noisy-le-Grand, 252 familles, peut-être 300. Il y a plusieurs prêtres qui sont venus, ils n'ont pas pu y rester, les familles les ont chassés. Tu y vas, tu restes 6 mois, 1 an, et puis tu rentres en diocèse.
La suite de l'histoire.
Non seulement il accepte cette mission, mais contrairement au précédent,
il décide de s'y installer. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas mener une action si on vit à l'extérieur, dans un endroit très confortable. Il subit le même froid que les familles. Il n'a pas de couverture quand il en a une, il en donne à une famille qui arrive en plein milieu de la nuit, etc. Il n'a pas plus à manger. Il communie, en quelque sorte, dans tous les sens du terme, avec ce peuple.
Comment est-il accueilli par ces gens ?
Alors au début, avec méfiance, avec circonspection, puisque tous les communautaires qui avaient pris la direction du camp et tous les aumôniers ne sont pas restés très longtemps. On voit des témoignages où visiblement il y avait un aumônier qui passait son temps ou bien à lire sa Bible ou bien à reluquer les filles qui passaient. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas solides. Et lui, il arrive dans une deux chevaux complètement déglinguée, avec une soutane complètement abîmée. Donc déjà, il a un look qui le fait plus facilement accepter. Et il va aussi arriver avec des conceptions complètement différentes des autres. Et donc assez rapidement... Il parvient à se faire accepter.
Vous dites qu'il a des méthodes un peu atypiques, différentes. Quelles méthodes ? Parce qu'auparavant, le camp fonctionnait comment ?
Alors, le camp fonctionnait avec, on ne sait pas trop si c'est 26 ou 28 œuvres caritatives qui s'occupaient des enfants, qui donnaient des vestiaires, des soupes populaires, etc. C'était un camp qu'on dirait aujourd'hui encore complètement assisté. Sauf qu'à cette époque-là, le terme assisté n'était pas stigmatisant puisque c'était le terme en vigueur dans les pouvoirs publics jusqu'en 1953 et puis il était encore. Après, on parlera d'aide sociale, mais donc c'était des assistés parce qu'on leur donnait à manger, il y avait la soupe populaire, il y avait des vestiaires, etc. Tout était pris en charge. Et l'idée du Père Joseph, c'est qu'on ne peut pas retrouver sa dignité quand on est tributaire de l'assistance, quand on est tributaire du don des autres, que c'est anti-dignité, puis ça ne vous pousse pas à vous mettre au travail, puisque de toute façon, la soupe, elle arrivera, de toute façon, le vêtement, il arrivera. Son idée, c'est au contraire de donner aux populations les moyens de se reprendre en main, d'acquérir une autonomie professionnelle, sociale, de la dignité, de la parole, de la conscience de soi, etc. Et il renvoie, par exemple, les œuvres du camp.
Comment la population réagit-elle ? Parce que cette aide à laquelle elle était habituée, du jour au lendemain, disparaît ?
Ça ne disparaît pas du jour au lendemain parce qu'il y a des gens qui sont assez rétifs. Il y a beaucoup de perturbations. On est aussi dans l'époque où il y a les Nord-Africains, il y a la guerre d'Algérie. À un moment, il y a des pieds noirs qui commencent à prendre possession du comité du camp, à essayer de faire un putsch, qui veulent prendre le vestiaire, etc. Donc c'est vraiment très très compliqué. À un moment, le Père Joseph rouvre le vestiaire, refait des braderie libre et puis la population en fait se rend compte de la conception qu'avait le Père Joseph de ce refus d'être assisté, tributaire de l'assistance, et va petit à petit s'y ranger, d'autant qu'en parallèle, il invente une autre méthode. La première chose qu'il implante dans le camp, c'est une bibliothèque. En 57, parce qu'ils rêvent que les enfants puissent avoir un lieu à eux où ils puissent faire leurs devoirs en rentrant de l'école. Vous imaginez ce que c'est pour un enfant qui vit dans un bidonville de devoir faire ses devoirs en rentrant de l'école, si tant est qu'il a pu aller à l'école, parce que vous êtes pouilleux, gadouilleux, etc. Il y en a plein qui ont abdiqué. Donc déjà, il y a toute l'entreprise d'aller remettre les enfants dans une démarche de scolarisation. Et puis après, quand ils rentrent chez eux, comment vous pouvez faire vos devoirs dans un igloo qui fait 5 mètres sur 8, où il y a entassé 8 personnes, tout qui est mélangé, la cuisine, la télé, la femme, la radio, je sais pas, les chiens, un bruit, le père qui est violent, qui rentre du travail, tout le monde qui est exaspéré, c'est absolument infernal. Donc la bibliothèque, c'est le lieu de l'apaisement, c'est le lieu du savoir, c'est le lieu de la découverte, de l'écrit.
Et ça marche ?
Et ça marche, petit à petit ça marche. Alors c'est pareil, c'est pas miraculeux et tout marche pas du premier coup. Quand les gens se révoltent, ils se révoltent contre la bibliothèque parce que c'est le symbole. Et donc il y a des jeunes qui cassent la bibliothèque et donc il faut reconstruire. Mais la population, elle s'y remet à reconstruire la bibliothèque.
Et lui, il y croit.
Et lui, il y croit parce qu'il sait que c'est le levier. Il a la conviction, c'est vraiment la spécificité d'ATD Quart-Monde par rapport à toutes les autres associations de solidarité. La plupart considèrent que la pauvreté, elle est économique. Lui, il dit non, là on a affaire à un degré de pauvreté tel qu'il faut reprendre les choses à la base et que juste donner de l'argent, ça ne suffira pas. Donc il faut redonner du savoir, de la culture, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, etc.
C'est le Père Joseph qui m'a parlé de l'école. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses, toi, Martine, de l'école ? Et je lui ai dit, mais l'école, c'est quelque chose de terrible. Et lui, il me disait, mais l'école, c'est l'endroit où tu peux te sauver.
RCF, Véronique Alzieux.
Tout ça se met en place petit à petit dans le camp. Ensuite, il y a des clubs pour les enfants, il y a des clubs d'artisanat, il y a une chapelle aussi.
Oui, alors la chapelle, elle arrive tout de suite. Dès 57 aussi, c'est la deuxième chose. 57, c'est d'abord la bibliothèque et après la chapelle, avec des vitraux de Bazaine. C'est un monument historique.
Donc du beau.
du beau. Il met une esthéticienne dans le camp aussi. Donc les femmes, elles ont à nouveau le goût d'aller voir la maîtresse, à nouveau le goût de se présenter pour essayer de trouver du travail, etc. Et le beau, ça donne envie à nouveau de transformer son intérieur. L'intérieur qui était laid, qui était gadouilleux, eh ben on a envie de mettre des rideaux, de faire un petit jardin coquet. Et donc il va y avoir des vitraux de miro et de braque dans le foyer féminin où les femmes, elles ont une machine à laver et une sécheuse. Parce qu'avant, elles utilisaient le vestiaire parce que c'est tellement compliqué d'aller au lavoir, de tout frotter quand on vit dans un camp de boue et que 10 minutes après, il faudra tout recommencer, que autant prendre les vêtements que les gens donnent. Et voilà. Donc c'est vraiment un
système. Il fait goudronner, non, aussi, l'intérieur.
Il fait viabiliser les routes, il fait installer l'électricité, il instaure des camps l'été avec des jeunes volontaires qui viennent aider à construire, à viabiliser le camp, à rajouter des bornes fontaines, à enlever les détritus, etc., etc. Donc il devient au moins un minimum viable.
Comment est-il perçu par les autorités, par l'Église aussi à ce moment-là ?
Très différemment par les autorités et par l'Église. L'Église, paradoxalement, le soutient. Parce qu'on est dans l'époque de la condamnation des prêtres ouvriers, mais il reste un tropisme social. Son évêque, visiblement, de Versailles, l'a à peu près toujours soutenu, en tout cas dans les moments les plus difficiles. Par contre, avec les autorités, c'est très très compliqué. Alors à l'origine, c'est quand même assez bourgeois, noisy. Et donc, on n'en veut pas de cette population qui fait tâche. En fait, il y a des gens qui viennent visiter le zoo de Vincennes le dimanche et qui viennent aller passer un détour par Noisy pour aller voir les gens comme au zoo. Ça coûte une fortune à la municipalité. Et c'est un bidonville dans une mairie qui essaye de s'embourgeoiser. Le maire de Noisy n'a qu'une obsession, c'est de faire détruire le camp. Et une partie des ministères essayent eux aussi de faire détruire le camp parce qu'on est dans la période où la France détruit ses bidonvilles. À la place, on essaye de construire du logement social, des cités de transit, etc. Mais les bidonvilles, de toute façon, c'est une honte humaine. Donc la France, début des années 60 et jusqu'à la grande loi Debré, 64, elle détruit les bidonvilles. Donc il n'y a aucune raison de maintenir ce camp.
Donc lui se bat contre ça.
Et lui, il se bat parce qu'il se dit, en fait, si on détruit le camp, qu'on disperse les gens, on aura dispersé le problème, mais on ne l'aura pas résolu. Et mon expérience, elle passe par Noisy, qui est un peuple en quelque sorte expérimental dans cette nouvelle conception de la lutte contre la pauvreté.
Le père Joseph Wrzesinski, son action au camp de Noisy ne laisse personne indifférent. Il commence à être connu, Axel Brodier. Et ce qui est frappant, marquant et déterminant aussi pour la suite des événements, ce sont les personnalités qui l'attirent et qui voient en lui quelqu'un d'un peu prophétique peut-être et qui ont envie de s'investir et de soutenir son action. Il faut évidemment citer deux noms, notamment celui de Geneviève de Gaulle-Antonioz.
Oui, la grande figure marquante, c'est à partir d'octobre 58, Geneviève de Gaulle-Antonioz, donc la nièce du général de Gaulle, qui entend parler du camp et qui décide d'aller voir sur place. Alors elle reconnaît Ravensbrück. C'est une ancienne déportée de Ravensbrück et dans ces baraquements, dans cette boue, dans cette tristesse des visages, dans ce quasi-désespoir, elle reconnaît l'expérimentation carcérale des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale et elle se dit qu'elle peut pas rester sans rien faire face à ça. Et donc à partir de 59, elle va quitter son poste au ministère pour se consacrer au camp. C'est la première grande figure. Il y a une autre grande figure, Alwin de Vos van Steenwijk, qui est une diplomate néerlandaise de l'OCDE. Alors, elle est polyglotte, elle parle anglais, allemand, hollandais, français parfaitement, etc. Et elle découvre le camp parce que le père Joseph a réussi à décrocher un reportage dans Elle à Noël 59. Et donc, en 60, elle arrive et elle aussi, elle est complètement bouleversée, traumatisée. Elle lui demande comment elle peut aider. Il lui dit « montez des recherches sur le camp ». Ce qui est complètement paradoxal. Normalement, on dit bah, « allez distribuer du vestiaire, faire de la soupe, je sais pas, n'importe quoi ». Et lui, on a vu que c'est complètement aux antipodes de sa conception. Et il dit « si jamais on veut vraiment lutter de façon intelligente politiquement pour aider ce peuple, il faut d'abord le connaître ». Et c'est vrai qu'en fait, en France, comme dans les pays occidentaux, la connaissance de la pauvreté-précarité, elle est extrêmement faible parce que on connaît le prolétariat, c'est ça qui intéresse les gens, parce qu'on est dans un contexte de sécurité sociale, de prospérité des Trente Glorieuses. Donc on se dit la pauvreté, elle va disparaître. C'est un non-sujet. Et donc, on ne connaît pas, en France ni ailleurs, la pauvreté. Ouais. Qui sont les pauvres? Pourquoi on devient pauvre? Et si on ne comprend pas qui ils sont et comment on tombe dans la pauvreté, on ne peut pas comprendre comment sortir les gens de cette pauvreté.
Alors qu'est-ce qu'elle entreprend?
Alors, elle va monter un bureau de recherche sociale, elle en prend la tête, et donc elle va monter des recherches quasiment sociologiques, s'attirer des sociologues, des psychologues, des médecins, pour comprendre cette population. Les gens d'ATD, les volontaires, vont eux-mêmes écrire tous les jours, comme des sociologues aujourd'hui, avoir un petit carnet où ils notent tous les jours ce qu'ils ont observé, ce qui permet à la fois de consigner et puis de distancer son expérience, de l'analyser, de mieux la comprendre. Donc, c'est des approches encore un peu amateurs, mais vraiment complètement scientifiques. Et pour d'autres vraiment professionnels, Jean Labins par exemple, qui est un sociologue lyonnais de cette époque, va faire des enquêtes sur la population du camp. Et donc pendant les années 60, on va acquérir des vrais chiffres, des vraies données sur qui sont ces personnes dans la grande pauvreté.
Est-ce que ça coïncide avec la fondation du mouvement ATD, Aide à toute détresse ?
Oui, c'est l'époque où tout se structure. Alors au début, il y a deux associations, l'association des amis du hameau pour les amis de l'association, un groupe de population du camp qui se fédère lui-même en association pour gérer le camp. L'association des amis du hameau va disparaître au profit d'Aide à toute détresse qui naît en 1961, qui devient Aide à toute détresse Quart-Monde à partir de 1968-69. Après, ça va s'internationaliser, s'européaniser dans les années 71 pour avoir accès au financement européen. Donc c'est une construction institutionnelle lente qui n'a pas un grand intérêt en soi, mais en fait c'est vraiment tout un processus.
À l'initiative de Joseph Brzezinski.
Ah ben c'est lui qui pilote tout en fait. Il est vraiment aidé par quelques alliés. Il y en a un autre qu'on n'a pas cité, c'est André Hettès qui est directeur adjoint de Dassault. On imagine mal comment il arrive, sa journée entre sa vie privée, sa vie professionnelle et le camp, je ne sais pas combien d'heures il dort par nuit. Mais donc il a quelques alliés très très solides qui ont des réseaux nationaux, internationaux, chacun ayant son type de réseau, qui vont aider le camp à véritablement s'installer.
Vous avez parlé au tout début de nos entretiens, Axel Brodier, de la proximité entre l'œuvre de Joseph Brzezinski et Emmaüs. À quel moment est-ce que les deux se séparent ?
Alors justement dans ces années, en fait en 1960 très concrètement, Emmaüs a la gestion du camp jusqu'en 1960, c'est assez calamiteux et Emmaüs le sait hein, qu'il gère mal le camp. Mais en fait, eux ils veulent à la place, ils ont une société d'HLM et ils veulent construire des HLM, donc ils veulent enlever de camp pour construire du HLM. Et le père Joseph c'est pas exactement ça qu'il voudrait parce qu'il sait que le HLM est pas accessible aux populations vraiment les plus démunies qui ont pas les capacités financières, sociales, etc. pour se maintenir dans un vrai logement social. Il faut quelque chose de niveau, j'allais dire un peu en dessous. Donc ils n'ont pas la même conception et Emmaüs est incapable de déléguer des responsables solides. Donc entre 57 et 60, c'est vraiment une période très tendue et à partir de 60, Emmaüs délègue complètement la gestion du camp au père Joseph, il y a des accords. Et donc à partir de 60, c'est le père Joseph qui est le responsable et qui prend la main.
RCF, la suite de l'histoire.
Et il a donc les mains libres et toute la marge de manœuvre dont il a besoin et à laquelle il aspire pour développer son œuvre.
Exactement. Et donc à partir de là, il impose sa conception qui est, alors c'est intéressant parce que donc c'est cette bibliothèque, ce foyer féminin avec tout un cycle du linge, du vêtement, etc. Un foyer pour les hommes, de l'apprentissage professionnel, notamment à l'électricité, à la mécanique pour les adolescents. Et quand on regarde aujourd'hui ce que l'Union européenne prône en termes d'investissement social, eh ben en fait il fait de l'investissement social avant la lettre. C'est de dire, pour sortir les gens de la pauvreté, il faut agir dès l'enfance, il faut agir par le levier professionnel pour au moins réinsérer la génération suivante, parce que sinon, mécaniquement, un pauvre fabrique des pauvres. Vous vivez dans des pauvres conditions. Vous n'avez pas des conditions correctes pour faire vos devoirs. Vous êtes obligé de travailler très tôt et donc vous ne suivez pas un cursus professionnel intéressant, etc. Et donc vous avez un travail de misère et donc vous retombez vous-même dans la misère avec des enfants qui reproduisent la misère. Et c'est une des choses que les études scientifiques d'ATD Quart-Monde dès les années 60 ont le mieux mis en évidence, c'est qu'en fait il y a une reproduction générationnelle et que ces pauvres, souvent, ils sont pauvres depuis des générations et des générations. On n'arrive pas à s'en sortir depuis des générations. Donc le père Joseph dit, moi, je vais essayer de briser cette spirale générationnelle et de faire en sorte que la génération qui suive et donc aussi les parents comme levier pour les enfants puissent se remettre dans une dynamique d'insertion.
Un mot sur le personnage.
Oui.
C'est une personnalité hors norme forcément pour avoir entrepris tout ça. On a parlé de ses origines. Qu'est-ce qui le caractérise en termes de tempérament, de manière d'être, de rapport aux autres ?
Alors, c'est difficile de le dire parce que moi, je ne l'ai pas connu, mais visiblement, c'était quelqu'un d'assez charismatique, qui sait être colérique, qui sait s'emporter, qui est toujours pressé, mais qui, en même temps, a toujours un crayon dans la main pour essayer de noter, qui est à la fois dans son bureau, dans les familles, auprès des familles. L'abbé Pierre est quelqu'un qui, par exemple, n'est pas un gestionnaire, mais qui est tout le temps en voyage, tout le temps en train de communiquer à la radio, etc. Le père Joseph n'est pas du tout un homme médiatique. C'est plutôt Geneviève de Gaulle, ou Alvin de Vos qui vont essayer de faire l'interface. Lui, il est un homme de ce peuple et il invente des leviers pour mettre en place que lui, il n'a pas eu la chance sans doute d'avoir quand il était jeune.
Est-ce que c'est un homme de prière ?
C'est un homme de prière, mais pour le coup, comme l'abbé Pierre et comme tout prêtre, hein, Monseigneur Rodin qui a fondé le Secours catholique est aussi un homme de prière. Il disait la messe, il priait, exactement comme l'abbé Pierre. Il a voulu instaurer un ordre de monial dans le camp. Il aurait rêvé qu'il y ait des sœurs qui prient aux côtés des personnes du camp. Et ça n'a pas bien marché, mais de même que l'abbé Pierre avait voulu instaurer un ordre des moines de la misère auprès des compagnons d'Emmaüs, et ça n'a pas marché non plus. Parce que sans doute que c'était trop tard et que l'époque était révolue.
Il a vécu longtemps au sein du camp ?
Il a toujours vécu, alors toujours autant que le camp est vécu, c'est-à-dire que finalement le camp petit à petit finit par se résorber avec l'accompagnement d'Emmaüs, avec l'accompagnement des pouvoirs publics. La grande idée du père Joseph et des gens du camp de cette époque, c'est de faire une cité de promotion sociale et familiale, c'est-à-dire que on peut pas mettre la population en logement HLM normaux, et donc on va faire une structure d'accompagnement intermédiaire, d'accompagnement social et d'accompagnement familial, parce qu'à cette époque, beaucoup d'enfants sont placés. Et donc, il faut trouver des façons de ne pas disloquer la famille, d'accompagner la parentalité. Et donc, il va petit à petit. Alors, ça met un temps fou parce qu'on ne lui donne pas les terrains, parce qu'on ne lui donne pas les autorisations. Donc, ça met quasiment 10 ans. Et à partir de 70, il y a l'autorisation de faire cette cité. Et en 71, une autre pour les familles encore plus déstructurées à Herblay, donc un peu plus loin en région parisienne, un peu de l'autre côté. Et donc, à partir de là, le camp de Noisy en tant que tel n'existe plus. Et c'est la cité de promotion et puis des logements HLM d'Emmaüs qui vont prendre place.
Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ce modèle de gestion du camp, c'est répandu.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres bidonvilles, en particulier le bidonville de la Campa, la Courneuve, qui vont solliciter ATD pour essayer de reprendre aussi les choses en main. Mais il va fermer beaucoup plus vite. Il va être résorbé par les pouvoirs publics au milieu des années 60. Et il va moins y avoir ce côté expérimental. Noisy, c'est vraiment...
Le laboratoire.
Exactement. Un camp laboratoire. C'est quand même aussi, effectivement, vous avez raison, une période d'expansion du mouvement. Alors, dans des bidonvilles, parce qu'ATD Carmonde se dit finalement, on va essayer aussi de planté dans d'autres bidonvilles pour d'autres populations en difficulté. Donc à Toulon, dans le sud de la France, à plusieurs endroits, il y a des petites implantations. Il y a aussi des implantations dans ce qui se développe à l'époque pour résorber les bidonvilles qui sont des cités de transit. Donc dans ces années 60, petit à petit, ATD fait tache d'huile. Il y a des volontaires qui vont s'implanter dans d'autres zones très pauvres de France et développer le mouvement. Et puis, va aussi s'internationaliser puisque il y a des volontaires qui rentrent chez eux, qui passent par le camp et qui redéveloppent le mouvement ailleurs où il y a des implantations. Donc ça fait tache d'huile en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Donc c'est vraiment une période d'expansion. Mais Noisy reste toujours avec une conception, ça reste le laboratoire matriciel.
Dans les années 80, Axel Brodier, l'œuvre et l'engagement, le travail de Joseph Wrzinski d'ATD Carmonde prennent une tournure politique. Est-ce que c'est une intuition qu'il a très tôt, très vite, cette nécessité de faire un travail au niveau politique, au niveau décisionnel, au niveau des représentations publiques?
Oui, cette idée de faire changer les lois pour intégrer son peuple, il l'a dès les débuts et c'est vraiment aussi une des spécificités d'ATD. Il me semble qu'il y en a deux, du père Joseph et d'ATD Carmonde. C'est connaître la population vraiment à la base. Aucune autre association le fait à ce degré-là. Après, c'est avec ces données-là qu'on va pouvoir faire changer les choses. Et l'idée d'avoir Alvin de Vos, qui est diplomate, d'avoir Geneviève Antonios de Gaulle, qui est la nièce du général et qui chacune œuvre dans les couloirs européens, internationaux pour l'une, les couloirs des ministères français pour l'autre, enfin et d'ailleurs un peu pour les deux, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Emmaüs, on le connaît pour l'appel de 54 de l'abbé Pierre, mais en fait après, va pas vraiment chercher à faire changer les lois. Le Secours catholique non plus, ils sont dans des démarches complètement différentes. À ATD, c'est vraiment intrinsèque. Et c'est vraiment un patient travail, parce qu'au début ça marche pas. Donc par exemple, ils s'invitent dans des réunions, ils y sont même pas invités, et paf, à l'audace, ils s'incrustent dans la réunion, et puis en fait,
personne est très compétent sur le sujet. Donc, ils disent, oh, on va prendre le secrétariat de là. Si vous voulez, on fait le PV de la Réunion. Puis, petit à petit, ils deviennent secrétaires de la Réunion. C'est de l'entrisme, carrément. Et au niveau européen, c'est quasiment du lobbying et dans les instances internationales, avant la lettre. Donc, c'est vraiment une vraie originalité, à la fois ce qui se passe complètement sur le terrain et à la fois ce qui se passe au niveau politique. La reconnaissance, elle vient petit à petit. Ils poussent toutes les portes des ministères. Dans les années 70, ils arrivent à rencontrer deux présidents de la République, le président Pompidou en 73 et son ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qui lui-même devient le prochain président de la République et qui va, par exemple, en 77, au 1er janvier, Giscard d'Estaing, qui est donc président de la République, accepte l'invitation d'une famille d'Herblay, donc les familles les plus cassées, les plus déstructurées, chez elles. Donc voilà, il y a les contacts politiques sont établis petit à petit. Mais le vrai levier, paradoxalement, en termes, enfin si on essaye de le penser, c'est que ATD Quart Monde a forgé une connaissance de la pauvreté dans la période des Trente Glorieuses, qui est une période de prospérité économique où finalement ça n'intéressait pas grand monde politiquement. Et arrive le basculement vers ce qu'on pourrait appeler les 30 ou les 40 piteuses, c'est-à-dire la période depuis le milieu des années 70, depuis les chocs pétroliers, où la France et le monde occidental sont entrés de façon plus globale dans le chômage, la précarité de l'emploi et la récession économique avec des crises périodiques. Et là, pour le coup, à partir de cette période-là, l'Europe et les pouvoirs publics français nationaux sont préoccupés de la pauvreté.
Et donc, prêtent une oreille beaucoup plus attentive à l'action et aux propos.
Prêtent une oreille très attentive et puis surtout se demandent comment on va pouvoir traiter, qu'est-ce que c'est que cette pauvreté, qu'est-ce qu'il y a comme réponse disponible et qui peut répondre en France? Quasiment personne. Et donc, à TD, là, ils ont un boulevard qui s'offre parce qu'ils ont la compétence. Ils ont acquis une connaissance en période de prospérité qui, du coup, va être en quelque sorte recyclée, mise à profit en période de crise. Et donc, dès 1980, le père Joseph participe au rapport OEX sur la pauvreté précarité. En 82, ils font un rapport au plan, un rapport de mission. Le père Joseph fait un rapport de mission. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que ATD est la première association française à avoir un siège au Conseil économique et social. C'est le père Joseph, donc en 79. Et ça, c'est aussi un levier, le Conseil économique et social.
Il est nommé
à la force du poignet parce qu'ils ont lutté un certain nombre d'années. Et en 79, il décroche le siège au Conseil économique et social. Et c'est le lieu où le père Joseph va faire son rapport. En 85, il est mandaté pour faire un rapport sur la pauvreté et la précarité. Et c'est le grand rapport de 87, grande pauvreté et précarité économique et sociale, qui pose la définition encore aujourd'hui canonique de la précarité économique et de la précarité sociale et qui fait le lien avec la grande pauvreté qui est pour le coup beaucoup plus le sujet de préoccupation d'ATD que la précarité, mais cet ensemble de pauvreté et de précarité, c'est la condition sociale aujourd'hui des personnes démunies en France.
Donc il est également nommé membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Oui.
Donc il y a tout un ensemble de signaux de reconnaissance.
Oui.
Et de lieux possibles d'action.
Il investit absolument tout ce qu'on lui propose et tout ce qui est intéressant. Donc le plan, le Conseil économique et social, les ministères, les rapports, etc. Pour lui, tous les leviers sont bons. Et ils ont même l'intelligence politique de dire il y a des choses qu'on n'arrive pas à débloquer au niveau national et donc on va court-circuiter le niveau national pour aller au niveau européen. Et toute la stratégie européenne d'investissement des instances du Parlement européen, de la Commission européenne, c'est pour pouvoir court-circuiter le niveau national si besoin, pour pouvoir forcer la France par une instance supérieure et puis pour développer plus largement l'action d'ATD Quart Monde et les conceptions et la connaissance sur l'ensemble du territoire européen et voire l'international, puisque ATD se développe aussi en Afrique dans ces années 70 et surtout 1980.
De tout ça naissent des lois.
Oui. À mon avis, il n'y a aucune autre association en France qui a une telle puissance de changement législatif. Le rapport Wresinski de 87 participe à donner naissance au RMI de 88, qui est, à mon avis, la grande loi tournant dans les politiques françaises de lutte contre la pauvreté. Avant, pour avoir droit aux aides sociales, quand on était démunis, il fallait être en situation de difficulté sanitaire, être handicapé, vieillard, etc. Maintenant, ça devient accessible à tous. Et ATD a milité pour un revenu minimum et l'a même expérimenté très tôt. Dès 84, a fait une expérimentation de revenu minimum. Donc cette loi, c'est ATD Quart Monde. Et puis après, la plupart des autres lois viendront après le décès du père Joseph, donc sur les lois qui ont changé la France.
Les bâtiments que vous avez construits, mais tout ça va rester, n'est-ce pas? Alors naturellement, les igloos vont disparaître, mais même l'église va rester. Eh bien toutes ces merveilleuses choses que nous avons construites vont être les traces, l'existence de votre formidable courage.
Extrait du film « Joseph l'insoumis » de Caroline Glorion avec Jacques Weber dans le rôle du père Joseph.
Voilà, qui sort de la terre comme ça, mais c'est cette cité communautaire dont nous avons rêvé. Eh bien, n'est-ce pas, autrement dit, elle est là et elle doit être un exemple. Mais pour tout le monde, pour tout le pays, pour toute la France, et même je dirais, pour tous les pauvres, ici, ça a été finalement la terre natale des pauvres. Voilà.
Il y a aussi l'instauration de la journée mondiale du refus de la misère. C'est dans la même période ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, 1987, qui est l'année juste avant la mort du père Joseph, c'est vraiment l'année apothéose pour AT Descartes Monde, parce que c'est l'année de la remise du rapport Wresinski au Conseil économique et social, qui fait date et qui est encore une référence aujourd'hui. Et puis, c'est le grand rassemblement au Trocadéro du 17 octobre, mais qui n'est pas encore la journée mondiale du refus de la misère. Ça le deviendra en 92. Donc, de son vivant, le père Joseph ne l'a pas connu, mais il a connu ce grand rassemblement national et avec une dimension internationale, puisqu'il y a des personnalités internationales et européennes qui y sont présentes ou représentées, et qui est en fait, si on doit la dater, c'est la première journée du refus de la misère, mais elle n'est pas reconnue encore comme journée internationale.
Qui en est à l'initiative ?
Ben c'est AT Descartes Monde, hein, de toute façon. Pour le coup, le 17 octobre 87, c'est vraiment une mobilisation d'AT Descartes Monde qui invite d'autres associations à participer, mais c'est vraiment du AT Descartes Monde pur jus.
Les médias sont là, sont présents, répondent présents.
Oui, relayent, mais après, ils vont relayer de plus en plus. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va crescendo.
Il ne joue jamais vraiment, lui, le jeu des médias ?
Si, bah, il essaye de décrocher tout ce qu'il peut. Mais dans ces années-là, il me semble que, par exemple, l'abbé Pierre est beaucoup plus connu des médias que le père Joseph.
Et Geneviève de Gaulle-Antonioz aussi s'exprime quand même assez volontiers au sujet d'ATD, bien sûr.
Ah ben, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle s'exprimera encore plus après le décès du père Joseph, quand en quelque sorte elle prendra le relais en tant que présidente, et puis elle reprendra le relais au Conseil économique et social. Mais ce n'est pas l'association la plus médiatique. Hein. Quand on pense au Secours catholique ou à Emmaüs, qui vraiment ont des réseaux médiatiques très forts, jouent le rôle de la médiatisation et des campagnes très très fortes, ATD à cette époque-là n'a pas du tout cette approche en termes de grandes campagnes. C'est vraiment à partir de la fin des années 80 que ça va être un levier supplémentaire de mobilisation. C'est une association plus discrète, qui est plus dans la compréhension scientifique, plus dans l'action dans les cabinets, dans les arcanes, dans les couloirs ministériels, qui est dans le lobbying, mais qui est moins dans les esbroufles, la visibilité, etc.
La suite de l'histoire.
Vous avez parlé de la dimension européenne.
Oui.
Ça s'étend au niveau mondial.
Ça s'étend même au niveau mondial, puisque le père Joseph a le souci. Il voyage beaucoup. Il repère des associations qui luttent de leur côté de façon très isolée contre la très grande pauvreté en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et il va monter une association internationale pour fédérer ces petites associations isolées, et en se disant c'est en échangeant les expériences, en mettant en réseau, qu'on va acquérir plus de moyens avec le soutien des organisations internationales si possible. Et donc il y a vraiment aussi une stratégie, mais qui n'est pas une stratégie délibérée d'extension, c'est plutôt une stratégie de mise en réseau des initiatives existantes pour pas qu'elles se sentent isolées, pour échanger les expériences, etc.
À quel moment l'expression « quart monde » apparaît-elle ?
Alors, l'expression « quart monde », elle apparaît dans les années 68-69. Il y avait le terme avant de sous-prolétariat qui était déjà apparu dans la première moitié des années 60. Le terme de « quart monde », c'est plutôt dans le courant du moment 68. Alors, on parle du tiers monde. Alors, c'est intéressant ce terme parce que c'est une double analogie. C'est à la fois une analogie avec le tiers monde, dont on parle beaucoup, hein, c'est la grande préoccupation du tiers monde, et puis avec le tiers état de la Révolution française. On redécouvre le tiers état. Il y a des cahiers du quatrième ordre, ça s'appelait comme ça, de Fourny de Villiers, qui avait été écrit sous la Révolution française. Et donc, ils reprennent ce terme entre quatrième ordre, tiers monde, tiers état, et ils forgent le terme de quart monde. Donc vraiment, on est dans ces années 67, 68, 69.
On
peut considérer que l'année 1987, Axel Brodier, est une forme de consécration pour le père Joseph Brzezinski et surtout pour son œuvre, une forme d'apothéose. Et il se trouve que le père Brzezinski meurt début quasiment 88, tout, ouais. Voilà, le 14 février 88. Il a accompli son devoir.
Alors, je sais pas, l'histoire dirait s'il avait vécu plus longtemps ce qui serait passé. Je pense qu'il aurait encore continué pour une reconnaissance mondiale, mais cette reconnaissance mondiale, elle va arriver de toute façon parce que le flambeau est repris. ATD ne s'éteint pas avec son fondateur. Alors, c'est toujours la grande question hein, quand il y a des fondateurs aussi charismatiques, aussi tutélaires dans une association, comment l'association va surmonter la mort du fondateur? On s'est posé la question, est-ce qu'Emmaüs allait mourir avec l'abbé Pierre? Eh ben non. Alors, à ATD Quart-Monde, le dispositif est très différent par rapport à Emmaüs. Mais avant de mourir, le père Joseph avait désigné une sorte de triumvirat pour lui succéder. Il avait posé des bases très solides. Il y a toujours la figure d'Alvin DeVos qui va, à partir de sa mort, avoir encore plus d'emprise sur le niveau international puisqu'elle se retrouve toute seule à le gérer. La figure de Geneviève de Gaulle qui, elle, va reprendre le flambeau au niveau national, au niveau français. Elle reprend son siège au Conseil économique et social. Elle reste présidente du mouvement français. Et cette continuité, on la voit en particulier dans deux terrains, le niveau national et le niveau international. Le niveau national parce que 88, c'est la mort du père Joseph et c'est la loi sur le RMI, qui était en quelque sorte une grande bataille d'ATD Quart-Monde. Mais ATD Quart-Monde aurait voulu que ce soit plus progressif, plus pensé, expérimenté d'abord et surtout que les modalités soient pas les mêmes parce que le RMI, notamment parce qu'il prend en compte les allocations familiales, il défavorise les familles. Donc pour plusieurs raisons, ATD Quart-Monde, dès la mort du père Joseph, lutte pour encore mieux autre chose que le RMI. Et c'est tout le combat de Geneviève de Gaulle pendant 10 ans, notamment au Conseil économique et social et puis toujours dans ses arcanes institutionnelles pour aboutir à la loi de 98 de lutte contre les exclusions. Je passe sur toutes les péripéties, les remaniements ministériels, les changements de président de la République, etc. Ils ont cru qu'ils y arriveraient jamais. Et finalement, ils y arrivent en 98 et c'est une assez grande loi en France, cette loi d'orientation de 1998. Mais il me semble que ça va encore beaucoup plus loin l'action d'ATD Quart-Monde, puisque au niveau français, l'idée c'est de dire, il faut lutter pour des droits. On est contre les mesures sectorielles pour les sans-abri, les centres d'hébergement qui ressemblent à des soupes populaires. ATD Quart-Monde est très violent dans les années 90 sur toute la politique de lutte contre le sans-abrisme, le SAMU social, etc., qui pourtant sont une autre facette importante de la lutte contre la pauvreté en France. Mais il considère que c'est pas remettre les gens dans leurs droits que de leur proposer un SAMU social, un hébergement pour une nuit, etc. Eux, ils sont vraiment dans la lutte pour le droit. Et donc, c'est le RMI, 88, c'est la loi de lutte contre les exclusions, 98, mais dans la foulée, c'est la CMU en 99, couverture qui est le droit à la santé, couverture maladie universelle. En 2000, l'année encore d'après, c'est l'aide médicale d'État, en 2000, donc pour les étrangers, et ça se prolonge encore aujourd'hui et depuis les années 2000, sur qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme droit à l'emploi. Et tout récemment, ATD Quart-Monde a lancé, a été concrétisé dans son expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, donc qui a été autorisé par la loi en décembre 2016, d'essayer de trouver une forme de droit à l'emploi, à l'insertion par une activité professionnelle qui soit utile au niveau français. Il y a tout ce qui est la lutte contre les discriminations. ATD Quart-Monde a aussi lutté pour faire reconnaître la vulnérabilité économique comme 21e critère de discrimination en France. Ils y sont parvenus en 2015, après tout un travail aussi. Donc ça, c'est le prolongement de l'action, de la pensée du père Joseph dans les 20-30 années qui suivent au niveau national. Et puis, il y a toute la dimension internationale. Le 17 octobre 1987, le Trocadéro. Et il y a tout un travail auprès des instances internationales, de la part du père Joseph, de son vivant et qui est prolongé à sa mort, pour faire reconnaître une journée mondiale de lutte contre la misère. Et ça aboutit en 1992. Et ça, c'est vraiment dû à ATD Quart-Monde. Donc, depuis 1992, il y a dans le monde une journée internationale du refus de la misère ou de lutte contre la misère, enfin, suivant comment on la traduit. C'est l'ONU qui l'a votée dans son Assemblée Générale. Elle est maintenant, elle est scellée dans le marbre. Il y a aussi des tas de répliques de la dalle du Trocadéro. Il y en a au Parlement européen à Strasbourg, il y en a au pied du mur de Berlin, il y en a à New York, au siège des Nations Unies, il y en a dans des tas de villes du monde comme ça. Donc il y a en quelque sorte une perpétuation, cette belle phrase, hein, là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré, qui irrigue maintenant la pensée des instances internationales. Il y a aussi le rapport d'Espuy de 96 sur la grande pauvreté, et c'est le père Joseph, à l'origine, qui avait demandé à ce qu'il y ait ce rapport, un rapport international sur l'articulation entre la grande pauvreté et la violation des droits de l'homme. Et depuis les années 90, il est reconnu au niveau français, il est reconnu au niveau européen, il est reconnu au niveau international que la grande pauvreté est une violation des droits de l'homme. Et le père Joseph a beaucoup milité pour qu'on reconnaisse ce qu'il appelle l'indivisibilité des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les droits économiques et sociaux et de l'autre côté les droits civils et politiques, parce qu'évidemment, les instances internationales étaient très préoccupées de la lutte contre la torture, etc. Mais le père Joseph disait les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux, il n'y en a pas qui sont supérieurs aux autres. Ils sont indissociables. La grande pauvreté, c'est une violation des droits de l'homme de façon générale. Elle empêche l'accès aux droits civils et aux droits politiques. Il y a une exclusion du jeu politique et ça fonctionne dans les deux sens.
30 ans plus tard, le 17 octobre 1987, on était 100 000 en plein Paris pour cette première journée mondiale de refus de la misère.
Extrait du film Joseph l'Insoumis de Caroline Glorion avec Jacques Weber dans le rôle du père Joseph.
Quel souvenir toutes ces familles rassemblées, venues des bidonvilles du monde entier.
Moi j'y étais. Avec ma mère et puis aussi Michel et Nadia. C'était impressionnant.
Les situations de pauvreté aujourd'hui en France, d'après vous, sont-elles finalement assez comparables à celles qui concernaient la France de l'après-guerre ? Et aujourd'hui, quel est le rôle d'ATD Quart-Monde ? Est-ce que les leviers restent les mêmes ? Est-ce que la préoccupation reste la même ?
Alors, la pauvreté, elle est à la fois similaire et très différente. Elle est très différente parce que le contexte des Trente Glorieuses, où il y avait de l'emploi quand même très facilement, les compagnons d'Emmaüs, on lisait dans les archives d'Emmaüs, quand ils sortaient de communauté, s'ils ne trouvaient pas de l'emploi dans les trois jours, c'est vraiment qu'ils y mettaient de la mauvaise volonté et que c'était des tartuffes. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec un bac plus 5 ou plus 10, on peut mettre 2 ans ou 3 ans ou 5 ans ou jamais retrouver de l'emploi. Donc aujourd'hui, les chiffres sont très clairs. Il y a un rapport de 1 à 32 entre l'offre et la demande d'emploi en France aujourd'hui. Dans la période des Trente Glorieuses, le rapport était quasiment de 1 à 1 puisqu'il y avait quasiment du plein emploi. Donc, le contexte est complètement différent. Aujourd'hui, on est dans un monde aussi non seulement de chômage de masse, mais on est dans un monde de précarité de l'emploi. Où quand on a de l'emploi, c'est des temps partiels, des CDD, des contrats aidés, des intérims, etc. À l'époque, c'était pas le cas. La norme, c'était le CDI et quand on trouvait à s'embaucher, c'était quand même le plus souvent dans un emploi stable.
Donc, il y avait une forme de sécurité d'emploi.
Il y avait une sécurité de l'emploi. Par contre, là, le contexte est assez similaire, c'est pour les plus cassés, parce que eux, ils n'arrivaient pas à rester dans l'emploi, ils changeaient tout le temps, ils étaient souvent malades, etc. Donc, Mais en même temps, le contexte est assez similaire parce que la pauvreté, ça reste de la pauvreté. Les bidonvilles réapparaissent en France, et parce que être pauvre, c'est toujours la même chose. Hein. C'est ne pas arriver à boucler son budget, c'est avoir un très grand risque de reproduction générationnelle de la pauvreté, c'est avoir des enfants qui eux-mêmes vont vivre dans la misère, c'est avoir des problèmes pour se soigner, c'est avoir des problèmes pour accéder au logement parce que vous n'avez pas de revenus stables dans les années 50 comme aujourd'hui. Il y a un problème d'accès au logement quand on est pauvre. Donc il y a à la fois un contexte qui est très différent et en même temps, au final, des mécanismes et des conséquences qui sont assez similaires au point de vue de la santé, au point de vue de l'éducation, au point de vue de l'insertion professionnelle, etc. Et c'est en ce sens que l'expérience que ATD avait acquis dans les Trente Glorieuses était reproductible, était heuristique pour le contexte actuel des années 80, 90, 2000.
Elle l'est vraiment
Il l'est vraiment parce que... Et puis ATD a continué à évoluer, à essayer de comprendre... quelle était la pauvreté. Donc oui, ça l'est. Enfin, il y a un ajustement perpétuel, mais
sachant que les trois grandes figures, même quatre que vous avez abondamment citées là, ne sont plus.
Mais la relève.
Elle
est sans doute davantage dépersonnalisée.
Vivace.
ATD Quart-Monde a mis au point un système de délégation qui change tous les 4-5 ans, qui émane de l'association et qui dirige l'association pendant une période donnée, puis qui après repasse le flambeau à une autre, etc. Donc c'est plus des grandes figures figure charismatique qui dirige l'association, mais en même temps, les figures tutélaires sont toujours là. Et à ce que je vois de l'action de l'association ces 20 dernières années, Territoire zéro chômeur longue durée, le petit livre sur les idées fausses sur la pauvre et les pauvres et la pauvreté, qui vient d'un travail d'enquête, de documentation, de chiffres, etc., et qui est vraiment dans cette optique qui était celle du Père Joseph, non seulement de faire changer les politiques, mais de faire changer les mentalités. Parce qu'en France, les personnes en situation de pauvreté sont handicapées par leurs conditions de vie, mais elles sont aussi terriblement handicapées par le regard qu'on porte sur elles. Tous ces discours de stigmatisation, de l'assistanat, des assistés, c'est scandaleux, c'est nauséabond, c'est de la démagogie politique. On sait très bien que les gens, c'est pas un plaisir de vivre avec 500 euros par mois, de pas avoir de travail. Le travail, c'est la dignité. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, on est encore dans une société, même si c'est une société du chômage, où la dignité passe par le travail. Et donc, c'est extrêmement écornant pour l'estime de soi, pour son rôle familial, pour son rôle social d'être au chômage aujourd'hui. C'est extrêmement stigmatisant, difficile à vivre, d'être discriminé parce que sur votre CV, vous avez un nom à consonance étrangère, parce que vous avez vécu des périodes de difficultés, etc. Et donc, lutter contre les discriminations, c'est quelque chose qu'ATD Quart Monde a fait beaucoup plus qu'à l'époque du Père Joseph, mais qui me semble aussi dans la lignée du fondateur, mais qui est une forme d'adaptation très intéressante et intelligente de l'association aux évolutions du monde contemporain et aux problématiques de la pauvreté et précarité.
Merci beaucoup Axel Brodier de nous avoir accompagnés dans cette découverte ou redécouverte du parcours du Père Joseph Wrzesinski et d'ATD Quart Monde. Je rappelle que vous êtes historienne au CNRS, spécialiste de la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté.
Sous toutes ses facettes, voilà, il y a de quoi faire.
Merci beaucoup.